Radio Kapi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Kapi, 2 morts et 5 hutes partis en fumée. Bilan d'un incendie survenu la nuit dernière dans le site des déplacés de Djanga au nord de Goma, territoire de Nyiragongo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Début hier à Lubumbashi de la 4e campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite au centre médical Diamant de la capitale du Cuivre. Des enfants seront opérés en plein cœur par des experts venus des États-Unis assistés par un personnel soignant congolais. Notre invité, c'est Ghislain Toé, coordonnateur de la section d'appui à la justice à la MONUSCO Sud Kivu et Maniema. Il nous parle des opportunités sécuritaires en faveur de la population de Kabare à travers la construction d'un bâtiment financé par la MONUSCO au profit de la police nationale congolaise. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu pour commencer, 2 enfants morts et 5 hutes calcinés. C'est le bilan d'un incendie survenu dans la nuit d'hier dans le site des déplacés de Djanga, non loin du camp des déplacés de Kanyaruchinya, situé au nord de Goma, en groupement Munigi, chefferie de Bakumu. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. La société civile de Nyiragongo alerte sur les conditions de vie difficiles que traversent les déplacés de guerre dans différents sites de déplacés dans les territoires de Nyiragongo, surtout en période pluvieuse. À Goma, une correspondance de Bernardine Diambo.
Il s'agit donc de 2 enfants, un garçon et une fille dont l'âge varie entre 8 et 6 ans, qui ont trouvé la mort dans cet incendie survenu hier lundi vers 18h30, heure locale, affirme le président du camp des déplacés de Kanyaruchinya. Les deux parents de ces victimes ont piqué une crise et sont actuellement internés dans une structure sanitaire à Goma, toujours selon notre source. Une moto couverte d'une bâche gardée dans la hutte des victimes qui a pris feu serré à l'origine de cet incendie. Les feux s'est vite propagé sur 5 autres huttes qui ont été également calcinées, a indiqué Deo Mushikura, président du camp des déplacés de Kanyaruchinya.
Nous n'avons pas d'engin anti-incendie pour éteindre le feu dans ce camp des déplacés de Kanyaruchinya. Nous demandons aux autorités de nous envoyer les gens qui peuvent nous protéger contre l'incendie dans les sites des déplacés. Le plus important, nous demandons à notre gouvernement d'en finir avec la guerre pour que nous rentrions dans nos villages respectifs.
En revanche, la société civile de Nyiragongo dit être préoccupée par d'énormes difficultés qui traversent les personnes déplacées vivant dans différents sites de déplacés. L'assistance humanitaire dont ils bénéficient quelquefois de la part de certaines organisations humanitaires reste insuffisante et ne suffit plus pour satisfaire la demande aussi intense. Leurs abris de fortune se détériorent davantage avec toutes les conséquences néfastes, surtout en cette période pluvieuse. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Restons dans la province du Nord Kivu. Le barrage intercommunautaire désapprouve l'appel à l'observance d'une nouvelle journée ville morte et annoncée pour mercredi par certains mouvements citoyens et les Wazalendo. Selon cette structure, au regard de la situation sécuritaire que traverse la ville de Goma, l'ennemi risque d'en tirer profit. Cette structure a fait cette déclaration à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi aux présidents et délégués des communautés du Nord Kivu. Réunion présidée hier lundi au gouvernorat par le gouverneur des provinces ad intérim. Le barrage intercommunautaire appelle la population de Goma à un esprit patriotique et à ne pas céder ainsi à la manipulation des tireurs de ficelles. Stéphane Lupao, secrétaire du Baraza, dans ses propos recueillis par Denise Lukesso.
Après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma en particulier, qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. Nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023.
Je l'ai dit au sommaire, la quatrième campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite a commencé hier au centre médical Diama de Lubumbashi. Une vingtaine d'enfants sont attendus. Ils seront opérés en plein cœur par des experts venus des États-Unis et qui seront aussi assistés par un personnel soignant congolais. Une occasion pour le responsable du centre médical Diama de solliciter l'implication de l'État congolais dans le but de sauver la vie des enfants souffrant de malformations cardiaques congénitales et qui sont nombreux à travers le pays. Notons que 51 enfants ont déjà été opérés en plein cœur en l'espace des 11 mois. Tous sont bien portants, Jean Gandou.
Cette campagne aligne une vingtaine d'enfants venus de plusieurs coins du pays, notamment Kolwezi, Beni, Gemena, Kasumbalesa et Lubumbashi. Parmi eux se trouve un bébé de moins d'une semaine. Docteur Norine explique la nature du mal dont souffre ce nouveau-né.
Il n'a pas le ventricule cœur droit. À cause de ça, il n'a pas sang qui entre dans les poumons. On va créer une chirurgie pour aider pour mettre le sang dans les poumons.
Dans la salle d'à côté, il y a la maman du petit Raphaël, âgé de 4 ans. Lui aussi sera opéré dans les heures qui suivent. Considérant la délicatesse de l'intervention, sa maman a la trouille, mais garde son optimisme.
Normalement, pour un parent, ça fait peur. Mais avec les explications des médecins, je suis optimiste en tout cas.
Le responsable du centre médical Diamant sollicite l'implication de l'État pour sauver les vies humaines. À cette préoccupation, le ministre provincial de la Santé, qui a donné le go de cette campagne, rassure. Joseph Sambi Boulanda.
C'est ici l'occasion de demander au ministre national de la Santé de prendre à bras le corps ce projet et à financer aussi, puisque c'est des enfants congolais qui viennent, et de Bukavu, de Mbujimayi, de Kinshasa, pour donner un appui à la province pour que nous puissions finalement supporter à très grande échelle ce projet et le pérenniser.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu, cette fois-ci dans le territoire de Beni, pour parler de la prise en charge des malades qui reste une difficulté majeure dans plusieurs structures sanitaires de la chefferie de Watalinga. Selon le chef de cette chefferie, le projet de gratuité des soins instauré par l'ONG Save the Children ne répond pas correctement aux besoins sanitaires de la population. Depuis bientôt un mois, explique-t-il, ces structures ont du mal à fonctionner correctement, ce qui a des graves conséquences sur la santé de la population. Le chef de la chefferie de Watalinga, le Mwami Pascal Sambili Bamukoka, est au téléphone de Marc Marofimbo.
C'est constaté un problème de prise en charge par rapport aux enveloppes qu'avait prévu l'ONG pour le fonctionnement de certaines structures. C'est comme ça que même au niveau de l'hôpital général de référence de Kamango et même au niveau de certains centres de santé, il y a un souci parce que l'enveloppe qu'avait proposé Save Children ne parvient pas à suffire et puis satisfaire même le personnel, d'autant plus qu'avant, ils gagnaient même plus que ça. Et nous avons constaté qu'il y a eu déjà des conséquences néfastes parce que au niveau, par exemple, du centre de Bougan, où il y avait un médecin, mais actuellement avec les projets, le médecin n'était pas pris en charge et puis il avait déjà décidé même de quitter les centres. Et avec des maladies qui nécessitaient son intervention, il y a eu quelques cas maintenant déjà qui devaient mourir par rapport à l'absence du médecin. C'est comme ça que nous avons dit que si l'ONG Save Children ne sera pas améliorée, ça pourrait être difficile aussi pour le médecin, infirmier, les structures sanitaires de fonctionner. Donc ça a un impact et puis si ça ne s'arrange pas, il y aura des conséquences très néfastes face à notre population.
Le superviseur du projet de gratuité des soins au sein de l'ONG Save the Children parle d'une situation qui est en cours d'analyse. Il promet d'y apporter des solutions idoines dans les deux prochaines semaines. Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, le Parlement d'enfants s'est dit consterné par les actes de violence perpétrés sur un enfant au quartier Lembabo à Bounia. Dans une déclaration à la presse ce mardi à Kisangani, le président de cette structure citoyenne s'est dit préoccupé par les supplices subis par le petit Chance Dradjima. Tout en plaidant pour sa prise en charge médicale et psychologique, Fabrice Debo, président du Parlement d'enfants de la Tchopo, interpelle les parents et les autorités pour le respect des dispositions relatives à la protection de l'enfant. Il souhaite aussi que le procès des auteurs de cette acte soit transmis en direct sur les antennes de la radio et télévision nationale afin de dissuader ceux qui seraient tentés d'agir dans le même sens. Ces propos sont recueillis par Jacques Mokonkole.
Nous levons nos voix pour condamner cet acte contraire aux dispositions de la loi portant protection de l'enfant dans son article 9 et nous profitons à condamner cela et interpeller la conscience des autorités et de pouvoir en place. Aussi, nous souhaiterons que ces bourreaux continuent à être détenus dans des instances judiciaires et que leur procès soit retransmis en direct pour servir d'exemple aux autres qui tenteraient de porter atteinte aux droits des enfants conformément aux dispositions que la RDC avait mises en place. C'est avec regret que nous déplorons cet acte et nous sollicitons l'implication des autorités, surtout de la société civile qui est sur place à Bounia. C'est un cas qui nous touche vraiment et nous profitons de cette occasion pour interpeller la conscience des parents, la conscience des autorités par rapport à la protection de l'enfant, puisque c'est déjà l'avenir d'un enfant qui est mis en danger.
Rendons-nous au Kasaï-Oriental où le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante Sini séjourne à Mbujimayi depuis le week-end dernier. Paul Muhindo Vahumawa a été reçu hier par le gouverneur des provinces à l'intérim. À l'issue de cette rencontre, le rapporteur adjoint a indiqué que sa mission a pour but de lancer à partir de Mbujimayi le cadre d'échange sur la justice électorale entre la CENI et les magistrats. Il va également lancer les tests à l'intention des agents temporaires qui vont assurer les opérations de vote le 20 décembre prochain. Il s'agit de techniciens informaticiens des centres de vote, des formateurs électoraux provinciaux et nationaux ainsi que le chef des centres de vote. Paul Muhindo, rapporteur adjoint de la CENI, s'exprime au micro d'Esterne Dalafina.
Nous sommes dans cette province du Kasaï oriental pour essentiellement deux grandes activités. Vous savez que la Commission électorale nationale indépendante est totalement engagée à organiser le processus électoral jusqu'au bout. Et le 20 décembre, nous allons avoir les élections générales. Mais pour arriver à cette date-là, il y a beaucoup d'autres étapes que la CENI organise. Et la première que nous allons faire, c'est avoir un cadre d'échange entre la Commission électorale nationale indépendante et les corps de magistrats. Et c'est un atelier donc sur la justice électorale. À partir d'ici, sur l'ensemble de 26 provinces. Et donc cet échange portera sur différentes innovations, mais également sur différents exemples des comptes passés ou précédents. Et au-delà de cette grande activité, nous allons également lancer une autre grande activité que nous appelons les tests de recrutement pour tous ces candidats qui ont postulé. Et ce sont des candidats qui vont travailler les jours du 20 décembre pour les élections générales. Et comme vous le savez, on a reçu au moins plus de 500 000 candidats et pour y arriver, nous organisons les tests.
Au Kasaï-Oriental toujours, début dimanche dernier des travaux de la voirie de quelques artères de la cité de Miabi, territoire du même nom à plus ou moins 45 km de Mbujimayi. Ces travaux consistent à asphalter 6 km de route par l'entreprise Safrimex qui a gagné le marché auprès du gouvernement provincial pour une durée de 9 mois. Plusieurs artères de la cité de Miabi sont en même temps éclairées par les lampadaires solaires. Esterne Dalafina, reportage.
La cité de Miabi se transforme de plus en plus. Après l'installation sur différentes artères de plus de 500 lampadaires solaires pour assurer l'éclairage public, la route principale dénommée Kalonjidi Tonga de la cité de Miabi est en train d'être asphaltée pour la toute première fois par l'entreprise Safrimex. La joie des habitants est au rendez-vous. Écoutons Henri Mbouyi.
Ici, on travaille, ici à Miabi. J'ai la joie pour ce que je vois ici. C'est ma première fois de voir ça.
Mélanie Mujinga dit ne pas être fatigué de marcher sur l'asphalte.
Avant, on revenait toujours avec la poussière aux pieds. Et puis la nuit, il fait clair.
Plusieurs femmes et enfants ont marché pour la première fois sur une route asphaltée. Témoignage de Hélène Mbombo.
Nous commençons aussi à marcher sur l'asphalte. Ça nous étonne. On voyait ça à Mbujimayi et à Kinshasa.
D'après Jean Mabi, directeur général de Beseco, ces travaux sont effectués sur base d'un accord avec la province du Kasaï.
Le projet de voirie rurale, nous avons un protocole d'accord avec la province. Il a déjà commencé à bitumer depuis vendredi.
Signalons que ces travaux ont donné une valeur ajoutée aux parcelles qui longent l'artère principale. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, lancement ce mardi 12 septembre dans la province du Maniema du projet d'appui aux analyses des systèmes des marchés et renforcement des capacités pour la concession forestière des communautés locales CFCL. Ce projet financé par USAID est mis en œuvre par l'Organisation non gouvernementale de développement Action pour la sauvegarde de l'enfant et de la femme abandonnée, ACEFA. Selon la coordonnatrice de cette structure, l'objectif est de valoriser les produits forestiers non ligneux en entrepreneuriat féminin des Bissemoulou, secteur d'Amboué, en territoire de Kailo. On écoute Madame Annie Sinaduku Mwange, coordonnatrice de l'ONG ACEFA, au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes dans la salle Safina House aujourd'hui. C'est pour le lancement du projet appuyé par l'USAID et Tetratech dans le cadre des analyses des systèmes de marché et renforcement des capacités dans l'entrepreneuriat féminin pour la concession forestière des communautés locales de Bissemoul. Le projet vise le renforcement économique de CFCL Bissemoul dans l'entrepreneuriat, puisque là nous voulons bien que la communauté puisse faire le développement durable dans plusieurs filières, surtout filière production agricole et aussi filière de produits forestiers non lignés dans l'entrepreneuriat. Nous voulons qu'au niveau de Bissemoul, qu'il y ait des entrepreneurs et aussi nous devons définir les marchés par rapport à l'écoulement pour maintenir le développement durable au niveau de Bissemoul, afin que la communauté de Bissemoul puisse bien gérer la forêt et aussi nous luttons pour la perte des forêts et la gestion des biodiversités.
Actualité internationale.
La compagnie aérienne Sky Mali a annoncé lundi annuler ses vols de la semaine à destination et en provenance de Tombouctou et Gao dans le nord du pays à la suite d'une attaque dans le périmètre de l'aéroport de Tombouctou. L'annulation de ces vols renforce encore l'isolement de Gao et Tombouctou. Rappelons que Tombouctou est sous le coup depuis août d'un blocus imposé par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda.
L'invité.
Il s'agit de Ghislain Towe, coordonnateur de la section d'appui à la justice à la MONUSCO Sud-Kivu et Maniema. Il nous parle des opportunités sécuritaires en faveur de la population des Kabare en général et celle des Chirunga en particulier à partir du bâtiment que la MONUSCO a financé à hauteur d'environ 40 000 dollars américains au profit de la police nationale congolaise SIAT de Kabare. Ghislain Towe s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur Ghislain Towe, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez la chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu à cette cérémonie ici à côté du bureau du territoire de Kabare. En quoi consiste le projet en soi?
C'est un projet de construction et d'équipement d'un commissariat, d'un sous-commissariat au territoire ici de Kabare. C'est un projet qui a commencé depuis le 2 mai 2022 et donc qui coûte environ 41 277 dollars. Voilà, donc c'est un projet qui rentre vraiment en droite ligne avec le mandat de la MONUSCO, notamment au niveau de l'appui à la réforme de la sécurité et dans le contexte également particulier que vous connaissez, donc de la transition. Ce projet vraiment répond parfaitement, en tout cas aux objectifs du mandat de la MONUSCO actuel.
Oui, on voit que le bâtiment flambant neuf, ça vient répondre à quel besoin de la population d'ici à Kabare?
Avant d'en venir même à la population, ça répond déjà même au renforcement même des capacités donc de la police nationale congolaise en termes d'opérationnalité. Et bien sûr, cela également va beaucoup améliorer les services donc de la police. Et cela va beaucoup également améliorer donc la sécurité dans la localité. Et bien sûr, au niveau des populations, cela aura un impact réellement positif en termes de services, hein, de services publics et en termes également de commodité pour les justiciables.
Les auditeurs de Radio Okapi aimeraient comprendre pourquoi vous liez ce projet à la transition, c'est-à-dire au retrait progressif de la MONUSCO?
Comme vous le savez, la transition consiste essentiellement en un retrait responsable de la mission. Et je crois que tout le personnel de la MONUSCO aujourd'hui a vraiment à cœur de pouvoir partir en laissant des choses durables, en laissant vraiment des traces, en laissant des succès, en laissant vraiment des réalisations qui vont perdurer, qui vont leur survivre. Et donc, un projet comme celui-là répond non seulement vraiment aux objectifs et au mandat de la mission, mais on est sûr que même après le retrait donc de la mission, c'est une œuvre qui va rester, qui va être utilisée, qui va être très utile, aussi bien pour la police nationale congolaise que pour les populations.
De l'extérieur, nous voyons la bâtisse, mais à l'intérieur, il y a quoi en termes d'équipement?
Essentiellement, ce sont des équipements mobiliers de bureaux conventionnels que vous connaissez, donc des chaises, des tables. Il y a également donc des ordinateurs pour vraiment un meilleur rendement donc du personnel. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a un dispositif solaire qui a été mis en place donc pour l'électrification et pour donc l'utilisation optimale vraiment de tout ce matériel.
Monsieur Ghislain Touré, nous vous disons merci en rappelant que vous êtes le coordonnateur de la section d'appui à la justice, mais pour l'instant, vous représentez Madame la chef du bureau de la MONUSCO Sud-Kivu.
C'est nous qui vous remercions.
Notre invité est interrogé par Jean Kassami. Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné par Élisée Tchikotati Vuetamwambui et supervisé par Martin Sebujangwe. Mimi Kindou était à la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci et portez-vous bien. Au revoir.